Il existe un nombre considérable de personnes qui se passionnent pour Sherlock Holmes, le célèbre détective, au point de le considérer comme une personne réelle. Parmi ces holmésologues figure une personne qui partage avec l'illustre auteur de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, le principe de vérification des faits. Cette personne est Isabelle Chevalier, autrice d'un excellent petit opuscule sur Arthur Conan Doyle, avec pour titre « Puis-je marier Sherlock Holmes ?». L'édition de l'enregistrement qui suit est un dialogue entre l'autrice Isabelle Chevalier et Gaëtan Fossaire, qui anime « Livre en scène » des rencontres littéraires mensuelles au Petit Chapeau Rond Rouge, à Etterbeek. Vous êtes le 6 janvier 2025 et l'éclairage de la salle vient de s'atténuer. La lumière inonde le plateau.
Bienvenue au Petit Chapeau Rond Rouge, vous allez bien?
Oui.
Eh, c'est la nouvelle année, hein? Ça va? On est le 6, donc il vous reste encore 20 jours pour garder les bonnes résolutions, là, vous savez. En général, après le 26, c'est poubelle, hein. Vu la nouvelle année, forcément, j'ai envie de vous faire un petit cadeau. En général, je fais une anecdote avant de commencer le grand thème que tout le monde attend. Eh bien, aujourd'hui, je vous ferai deux anecdotes. Deux anecdotes littéraires, hein, on s'entend, hein. Je suppose que tout le monde ici a la chance, cette chance magnifique, de savoir lire. C'est beau, c'est... On entre dans un univers incroyable. Et pourtant, il y a pas mal de gens qui, encore aujourd'hui, n'ont pas cette chance-là. Et encore moins, il y a un siècle, voire presque 150 ans. On va dire moitié 19e siècle, il y avait beaucoup d'illitrés, même trop. Rappelez-vous qu'à l'époque, les enfants travaillaient. Victor Hugo a beaucoup contribué à ce que les enfants aient beaucoup moins d'heures de travail, avec cette fichue loi, ce fichu ministre qui ne voulait pas diminuer le temps de travail des enfants. Et justement, en parlant de Victor Hugo, ses livres étaient lus à voix haute, pour justement celles et ceux qui n'avaient pas la chance de savoir lire. Un beau cadeau, pareil pour les grands auteurs de l'époque. Et cette tradition, elle est allée très loin, jusqu'en Amérique. Il y avait des auteurs américains, Melville par exemple, Dickens, Oscar Wilde, lisaient leurs livres dans des assemblées, en conférences. C'est beau, hein? Quel bonheur d'avoir Oscar Wilde en train de lire, de voir Dickens devant soi en train de lire, Melville ou que sais-je. Vous allez comprendre pourquoi je raconte tout ça. Ces lectures ouvraient l'imagination. Eh bien, vous savez que Dumas était lu dans les usines de Cuba. Et qu'est-ce qu'on fait dans les usines de Cuba? Et comment s'appelle un des cigares très connus? Ah bien, ça vient de là. Donc celles et ceux qui maintenant ont la chance de fumer un bon Monte Cristo, ben, sachez que c'est grâce aux lectures publiques. Il y avait une bonne âme qui s'amusait à lire, évidemment, Les Mousquetaires et autres livres de l'époque. Les Misérables étaient très brisés aussi, très très lus. C'était très théâtral. Victor Hugo était quand même un dramaturge au départ, hein, n'oublions pas. Hein. Le fameux cigare, ça vient de là, de l'histoire de Dantès. Edmond Dantès. Et je m'arrêterai là. J'en avais promis une deuxième. Avec la première, on est parti aux États-Unis, en Irlande, avec Oscar Wilde, à Londres, avec Dickens, en France. Là, avec cette anecdote-ci, on reste ici, chez nous, il n'y a même pas 40 ans. Il s'est passé un truc incroyable. La plupart sont bruxellois dans la salle. Vous le savez, on a à Bruxelles un parc extraordinaire, mystérieux, que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle le parc Egmont, qui est le seul parc de Bruxelles enclavé. Donc on ne le voit pas de l'extérieur. Il se trouve entre la rue Hollène, la belle rue avec toutes les maisons de maître qui mènent au palais de justice d'un côté et au sablon de l'autre. Et de l'autre côté, il y a les belles boutiques extrêmement chères, boulevard Waterloo, avec la Toison d'Or en face. Enfin bon, bref. Donc ça, vous voyez un peu où est ce superbe parc. Il y a une très belle entrée. L'entrée, c'est l'entrée Marguerite Yourcenar. On monte quelques marches, et là à droite, il y a une statue avec un enfant. C'est Peter Pan, le héros de James Barry. Très belle statue offerte par les Anglais qui ont remercié le peuple belge pour avoir protégé des enfants durant la Seconde Guerre mondiale. Cette statue est magnifique, et tout autour, il y a des elfes, des fées, des petits détails. Tout ça est finement sculpté, c'est très joli. Il y a aussi un parc, des bancs, et une espèce de buvette qui a changé 15 fois le propriétaire et qui s'appelle l'Orangerie. Et dans ce beau parc, il y a un jeune homme qui est assis, qui lit des partitions musicales. Je vous rappelle que le conservatoire de musique est deux rues plus loin, hein, rue de la Régence. Il y a du soleil, il fait beau. Dans sa tête, il y a certainement du Chopin et du Liszt et tous les romantiques. Un monsieur s'approche de ce jeune homme. Il dit « Ah, c'est du piano !» Le jeune homme directement se dit « un connaisseur. Vous êtes élève au conservatoire ?»« Oui, en dernière année. »« Chopin, c'est beau. »« Oui. Ça vous dirait de venir dans une soirée ?»« On fait une petite soirée entre amis dans 2 jours. » Si vous voulez, je vous y convie. Vous jouerez ce qui vous plaît. Je vois que vous avez du Chopin, j'imagine qu'il y a autre chose. Le jeune homme est tout décontenancé d'abord. Il accepte parce que le monsieur a l'air très bien de sa personne. Il accepte. Je peux me faire un petit billet. Et 2 jours plus tard, le jeune homme, avec ses partitions, se rend donc dans la rue Hollène, hein, la fameuse rue Hollène, pas très loin d'ailleurs de l'entrée principale du parc Egmont. Effectivement, c'est une espèce de bal costumé, les gens sont habillés, style justement 19e. Il dit, ça tombe bien, hein. J'ai du Chopin, j'ai du Schumann, j'ai du Liszt, je suis dans l'ambiance, quoi. Le petit s'installe à son piano, il y a un beau piano. Donc il rentre à gauche, il s'installe, il ouvre ses partitions. Il y a une belle cheminée, beau piano à queue, et les gens déambulent autour de lui, habillés, comme à l'époque. Et il commence à jouer. Il joue, ça dure... il joue quoi? Il joue deux heures et demie, avec des pauses. Il a un défaut, il va fumer. Et dans les années 80, il y avait la mode... il y avait donc les espèces de briquets Zippo là, qui puaient le pétrole. C'était très la mode dans les années 80. Il allumait ses clopes avec ça. Donc quand il terminait de fumer, il regagnait son piano et il posait son briquet sur la cheminée. Donc il se remet à jouer, ça se passe bien, il reçoit des petits akouski, reçoit un petit verre, enfin bon, bref. La soirée touche à sa fin, le jeune homme est remercié, s'en va, tout se passe bien, voilà, il est content, il est parti. Un petit peu après, il se dit « Merde, mon briquet !» Et il retourne évidemment rue Hollène, il tambourine, il sonne, il essaye... il veut récupérer son briquet, il sonne, et 2 maisons plus loin, un voisin regarde, il dit « qu'est-ce que vous faites, jeune homme ?» il explique, il dit « je suis venu jouer il y a 2 jours, je viens pour récupérer quelque chose que j'ai oublié. » Le voisin, il fait « non, c'est pas possible, cette maison n'est plus habitée depuis des décennies. Non, je vous dis, je suis venu il y a 2 jours, j'ai joué, écoutez, je connais les propriétaires, je l'appelle, et en même temps, ce que fait le voisin, il appelle la police. » Donc il y a la police et le proprio qui débarquent en même temps. Et le jeune homme explique au propriétaire, à la police, il explique, il dit « Voilà, je suis venu ici il y a 2 jours, j'ai joué, machin et tout. » Le propriétaire, il est blanc, pâle, livide. Il ouvre la porte, il rentre dans ce truc. Il est toile d'araignée partout, il fait poussiéreux. Le jeune homme donc explique que, voilà, il y a un long couloir, on tourne à gauche, il y a le piano, il y a la cheminée, il y a les sofas, il y a les fauteuils, il y a tout ça. Effectivement, le propriétaire est tout à fait d'accord. Il dit « Oui, le jeune homme décrit bien l'endroit. » Donc, forcément, ils entrent dans cette demeure. Et c'est vraiment comme dans The Others. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment les draps sur le mobilier, sur le fauteuil, sur le sofa, partout, avec une bonne couche de poussière. Et sur la cheminée, le briquet. Et il dit « Voilà, mon briquet est là !» Que s'est-il passé? Je vous laisse là-dessus. C'est pas Edgar Poe était déjà mort. Edgar Poe, ben justement, un des pères du polar. On l'oublie trop souvent, ça, hein. Il a aussi écrit du polar, hein, pas oublié, ça, hein. Nous sommes en 1888. Et qu'est-ce qui se passe en 1888? Ah, c'est beaucoup moins fun que tout à l'heure, hein. Il n'y a pas des lectures à voix haute, des œuvres de Hugo ou de Dumas. Il y a une pauvre malheureuse qui va se faire égorger par Jack l'Éventreur. Il faut savoir qu'à cette époque-là, tous les pauvres de Londres habitaient à l'est de Londres, hein, et les côtés riches, à l'ouest. Dans Calais, il y avait toutes les usines, toute la puanteur, l'alcool, les jeux, les clandestins, les putes. Et surtout, c'était mal famé. Il y a eu 5 pauvres filles. Oxyen. 5. Il y a eu 12 meurtres, mais on pense que les autres sont des copycats. Les 5 premiers, on appelle ça d'ailleurs des meurtres canoniques. Ce sont les vrais. Pourquoi on appelle ça comme ça? Parce qu'en fait, le supposé assassin aurait écrit à la presse, parce qu'il a compris que la presse allait évidemment saliver avec cette histoire, ce qui n'est pas faux. Plus d'un siècle après, on en parle encore. Enfin, de tout temps, en fait, on se rend compte que l'humain aimait le sang. Hein. L'humain aime avoir peur, l'humain aime se faire peur, et l'humain aime quand ça arrive aux autres. Ah oui. Et justement, cette histoire a tellement influencé le cinéma, la BD, les séries, les romans, qu'on peut se demander, mais justement, à la soirée de ce soir, il y a 2 détectives, là, qui sont censés se poser des questions, à savoir qui est le meilleur, ou qui a fait ça, ou qui n'a pas fait ça. Évidemment, vous l'attendez. Isabelle, tu es prête?
Ouais.
On peut applaudir Madame Isabelle Chevalier, s'il vous plaît.
Madame. Madame, l'autre.
Alors Isabelle?
Gaëtan.
Ça va?
Ça va.
Raconte à notre cher public pourquoi Conan Doyle ne s'est pas intéressé davantage. Que s'est-il passé?
En effet. La première histoire de Sherlock Holmes, c'est 1887. Les meurtres ont lieu en 1888.
Le premier?
Ça correspond, l'époque correspond, la géographie correspond, puisqu'on est à Londres. Pourquoi est-ce que Arthur Conan Doyle n'a pas fait enquêter Sherlock Holmes sur Jack l'Éventreur? Eh bien, parce qu'il trouvait l'idée déplaisante, d'abord. Parce que... Il s'est d'abord peu inspiré de faits divers, de manière générale, mais aussi parce que si on lit toutes les histoires originales de Sherlock Holmes, on s'aperçoit qu'il y a peu d'affaires criminelles qui sont à ce point sanglantes, gore, sordides. Parce que Jack l'Éventreur, quand même, c'était quelqu'un qui découpait ses victimes, qui les éviscérait, qui en sortait les organes et qui les rangeait bien de manière ordonnée à côté.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a supposé que c'était un médecin légiste. Parce qu'il le faisait vraiment d'une manière assez structurée. Et même au moment où il tuait les pauvres malheureuses, il les tuait d'une manière à ce que la malheureuse ne pouvait pas crier. Donc en coupant le son. Donc c'est pour ça que les enquêtes ultérieures, on se sont dit, tiens voilà, c'est un médecin.
Il y a même une de ses victimes à qui il a coupé le nez et les oreilles. C'était un petit marrant comme ça. Mais donc, Conan Doyle n'a pas voulu écrire là-dessus pour des raisons d'éthique, tout simplement. Et ça, je crois que c'est la principale raison. À partir du moment où il s'agit d'un vrai meurtrier et qu'il y a de vraies victimes, comment est-ce qu'il aurait pu broder une œuvre de fiction alors que la peur régnait partout dans les quartiers est de Londres, que toutes les prostituées se terraient dans les coins, que les crimes étaient atroces? Je ne vois pas très bien
comment... Il y en avait 10 000. On recensait 10 000 prostituées. Et on n'a pas connu, ça.
Mais enfin...
C'est paradise. Ouais. C'est
bon.
Vraiment, vraiment dommage.
Oui, oui. Tu parles pour toi, c'est très bien.
Non. Non.
Ce que je voulais dire par rapport à ça aussi, avant que tu me coupes de manière très déplaisante, c'est que c'est vrai, Sherlock Holmes n'a pas enquêté sur Jack l'Éventreur dans l'œuvre de Doyle, mais d'autres auteurs se sont chargés évidemment de le faire enquêter
ah, ouais.
sur les meurtres les plus marquants de cette époque. Alors, il y a eu toutes sortes de théories, parce que vous savez qu'il y a plein de gens qu'on appelle les Sherlockians ou les Holmesologues qui développent toute une série de théories, parfois complètement fumeuses, parfois très très drôles, généralement scientifiquement fournies. Ils ont des arguments, ces gens-là. Mais ils ont dit quand même un peu n'importe quoi. Certains ont dit Sherlock Holmes n'enquêterait pas sur ce rustre dément, ces meurtres absolument sordides parce que Sherlock Holmes n'enquête que dans les milieux bourgeois et aristocratiques. C'est faux.
C'est vrai que c'est faux.
C'est faux. Sherlock Holmes enquête partout où il y a du crime. C'est ça sa came, c'est ça qui le passionne. Et donc, il va dans les quartiers sordides, il va sur les docks, il va à Whitechapel, il va dans les fumeries d'opium, il va partout. Alors, on a dit aussi que la raison pour laquelle il n'avait pas enquêté sur ces meurtres, c'est qu'il était hors de Londres, tout simplement, en train d'enquêter sur autre chose. Ça, c'est plausible. Mais plus bizarre, on a dit que s'il n'avait pas résolu le mystère, c'est parce que Jack l'Éventreur ne serait autre que son ennemi juré, Moriarty. Ou pire, Jack l'Éventreur, ça aurait été Watson, auquel cas il n'aurait pas voulu le démasquer, puisque c'était son ami. Et pire encore, que Sherlock Holmes et Jack l'Éventreur ne feraient qu'un. Ce qui est totalement... Enfin, c'est du grand n'importe quoi. C'est évidemment pas possible, un truc pareil.
Je pense que les livres sur la théorie de qui se cache derrière Jack l'Éventreur, ben, il y en a des... On peut remplir une bibliothèque, hein, parce que c'est... Ça va du tout à n'importe quoi. Moi, j'ai même entendu que c'était Hitler, dans sa jeunesse. Enfin, je l'ai lu. Donc, c'est pour dire, mais ça, on extrapole, mais vraiment, ça devient vraiment, c'est très, très fort dans l'absurde et dans le... ça devient même risible. En fait, il y a tellement de théories, tellement d'absurdité que pour finir, on ne prend même plus l'affaire au sérieux, quoi. Enfin, c'est ça qui est dommage. Parce que quelque part, ça se noie. Les théories noient. L'histoire véridique, l'histoire, on va dire, horrible et originale, ça qui est affreux.
Oui, peut-être pas tout à fait quand même, parce que, bon, d'abord, comme tu le disais tout à l'heure, il y a eu des bandes dessinées, des films, des livres, et ça, From Hell, notamment, de Alan Moore, est terrible. Il y a eu des films à partir de cette bande dessinée aussi, et bon, on a développé ça, cette rencontre mythique entre Holmes et Jack l'Éventreur, qui n'aura pas eu lieu dans le canon de Doyle, a eu lieu dans des tas d'œuvres de fiction, BD, films, livres, etc. Je pourrais vous en citer.
Oui, on grattera ça pour tout à l'heure.
Bon, pas forcément, parce que c'est pas non plus... Mais quelqu'un avait élucidé. Parce que si tu me demandes, tiens, si Sherlock Holmes avait enquêté sur ces meurtres, est-ce qu'il aurait trouvé le coupable? Ben oui. Évidemment.
Ouais, mais bon, à ce moment-là, alors...
Ouais, j'ai pas fini. Cet homme, dont on voit le portrait ici, a élucidé l'affaire. Cet homme, c'est Joseph Bell. Joseph Bell était... C'est la véritable inspiration de Conan Doyle pour le personnage de Sherlock Holmes. C'était son professeur de chirurgie. Il était écossais. Et Joseph Bell était capable, quand il voyait un étudiant en médecine arriver à l'université d'Édimbourg, ou un patient, de dire, sans que le patient ait prononcé le moindre mot, ce type vient de telle région, il exerce tel métier, et il vient me consulter pour telle pathologie. L'inspiration pour Sherlock Holmes est un homme qui a bel et bien existé. Il était prodigieux, il avait comme Sherlock Holmes l'attention aux détails, et il savait qu'en observant bien une personne, sa posture, ses vêtements, ses mains, son regard, eh bien, on pouvait déduire plein de choses. Et donc, le professeur Bell, qui était contemporain des meurtres, a observé qu'en effet, le meurtrier utilisait une très longue lame, très affûtée. Ça pouvait être un médecin, ça pouvait être un boucher, ça pouvait être un menuisier, enfin, à peu près tous les gens qui peuvent manier des longs couteaux aiguisés comme des lames de rasoir. Il a observé aussi, il s'est fort intéressé au fait que le meurtrier envoyait des viscères à la police. Ça fait toujours plaisir, un petit courrier. Bref, il a enquêté. Et je vous lis un passage, si je peux. D'après le Embre Evening News, Joseph Bell parla à un ami journaliste des meurtres de l'Éventreur. Elle lui raconta comment, avec un autre ami qui aimait résoudre des problèmes difficiles, ils avaient entrepris de démasquer l'assassin démoniaque. Nous étions deux sur la piste de chasse, et quand deux hommes cherchent une balle de golf dans le rough, ils s'attendent à la trouver, au croisement des lignes droites qu'ils tracent chacun de tête, depuis leur position initiale. De la même manière, quand deux hommes entreprennent d'enquêter sur une énigme criminelle, c'est au point d'intersection de leur recherche qu'on obtient un résultat. Son ami anonyme et lui prirent la liste de tous les suspects de Scotland Yard, à laquelle ils ajoutèrent au moins deux sujets originaires d'Écosse. Lorsqu'ils eurent terminé leur déduction sur le meurtrier, ils écrivirent chacun un nom sur un bout de papier, mirent le papier dans une enveloppe, et puis échangèrent leurs enveloppes. Manifestement, tous deux avaient inscrit le même nom, jamais révélé. Le docteur Bell en avisa immédiatement Scotland Yard. Une semaine plus tard, les meurtres prirent fin. Était-ce une coïncidence ? Le docteur Bell et son ami inconnu ont-ils eu une incidence sur la résolution du cas ou sur la fin du carnage ? On ne saura jamais la réponse. De même qu'on n'a jamais pu identifier avec certitude Jack l'Éventreur. Sherlock Holmes, en tant que création littéraire, n'avait pas encore un an. Donc, il est évident que Sherlock Holmes aurait résolu l'affaire, puisque Bell l'a fait.
Dit-elle, hein. Et Poirot ?
Oui, parce que c'est très bien de demander si Sherlock Holmes aurait résolu l'affaire, mais ton Poirot, alors ? Il n'a pas enquêté, il était contemporain aussi des... Bon, allez, ça va.
Les premières histoires d'Hercule Poirot commencent en 1920. Et se termine en 1975.
Oui, mais il est déjà retraité à ce moment-là.
Oui, mais pas encore le poste qu'il a. Ceci dit, il y a un grand point commun entre Poirot, justement, je veux dire même Agatha Christie, et Conan Doyle, c'est qu'en fait, Agatha ne s'est quasi jamais inspirée de vrais faits, à l'instar de Conan Doyle, parce qu'elle avait assez d'imagination. Et pour trouver ses enquêtes dans son fort intérieur et pas dans des bassesses humaines, quoi. Donc, effectivement, il y a ce point commun énorme entre les deux auteurs. Public Agatha Christie était fan de Conan Doyle, aimait beaucoup le personnage, évidemment, créé par Conan Doyle, et ça a contribué, elle a voulu aussi se retirer du physique qu'avait le personnage créé par Conan Doyle. Pourquoi ? Parce que le personnage de Sherlock Holmes est aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, affublé comme un détective. Avec ce couvre-chef, avec la loupe, avec la pipe. Donc il a vraiment tous les accessoires propres. Vous demandez à un gosse aujourd'hui de dessiner un détective sans connaître le personnage de Conan Doyle, il va dessiner un détective qui ressemble à ça. Comme quoi ?
Ces éléments n'étaient pourtant jamais mentionnés par Conan Doyle lui-même dans l'œuvre. Hein. Le Deer Stalker, c'est une invention de Sidney Paget qui a illustré les histoires. La pipe calabache, Holmes ne l'a jamais fumée. C'est une appropriation de William Gillette, un acteur américain qui a interprété Holmes sur scène. Pour des raisons de diction, c'était plus facile d'utiliser une pipe courbe qu'une pipe droite. Mais Holmes ne fume en principe que des pipes droites. Sauf que peut-être, quand il est en Suisse, il aurait pu éventuellement acheter une pipe courbe. Bon. Et c'était quoi l'autre élément que tu disais ? Ah oui, la fameuse réplique élémentaire, mon cher Watson.
On sait très bien que c'est apocryphe. Hein.
On sait très bien, tout le monde ne le sait pas.
Bah si.
Tout le monde n'a pas la science infuse. Donc ça n'a jamais été prononcé dans l'œuvre originale. Sherlock Holmes dira « c'est élémentaire » d'un côté, « mon cher Watson » d'autre part, mais jamais les deux accolés.
Élémentaire, ma chère Isabelle. Alors, je disais donc que le personnage de Poirot est vraiment... Il est svelte, le tien. Poirot est plutôt un rondouillard, il a une tête d'œuf, il est représenté avec ses espèces de moustaches vraiment bien, bien travaillées, très apprêtées au niveau du physique, de l'aspect, au niveau même de l'élégance. Il met énormément de temps à s'apprêter, énormément de temps à se préparer, Poirot. Et surtout, pourquoi fait-il cela ? Vous allez comprendre directement l'allusion. Quand on pense à Columbo, avec son vieil impère, lui c'est l'antipode, mais quelque part, c'est pareil. On le voit arriver, Columbo, avec ses cheveux en pétard, ses cigarettes, et les same dames. Et son carnet qui est griffonné avec un crayon mal taillé, on se dit « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce type ? C'est lui qui va résoudre une enquête. » Donc on se base sur le visuel, sur l'accoutrement du personnage, pas sur ce qu'il a réellement dans le crâne. Bah, c'est pareil, je vous l'ai dit, hein, dans l'autre sens, avec Poirot. On le voit arriver, Poirot, on se dit « Oh, chou, chou, la chouchotte. » parfumée, tirée à quatre épingles, les moustaches avec en plus de ça des... ce que vous mettez dans vos cheveux, là, les machins, là. Les bigoudis, là. Machin. Enfin, pas toi, parce que ça se verrait. Mais les bigoudis aux moustaches. Et on se dit, mais c'est quand même pas cette espèce de chochotte qui va résoudre l'enquête. Eh bien, détrompez-vous. C'est lui. C'est lui. C'est lui, le cerveau. Comme Columbo, c'est lui, le cerveau. Donc, ne pas si aux apparences, hein. D'où le fameux adage « l'habit ne fait pas le moine ».
J'ai rien à dire de pertinent là-dessus. On va pas attaquer le physique. Moi, je voudrais juste parler de la totale sexualité.
Je ne parle pas de physique. Je ne parle pas de physique.
Tu parles de l'aspect ridicule.
Je ne parle pas de physique pour...
Si.
C'est une stratégie. Réfléchis.
Sa moustache est ridicule.
Il faut aussi réfléchir, des fois. Il ne faut pas tout de suite attaquer pour attaquer. C'est vrai, il faut réfléchir aussi. C'est une stratégie.
Oui, j'ai bien compris.
Bah oui, mais alors ta phrase est ridicule.
Ok.
Tu vas le prendre comme ça ?
Donc.
C'est très bien.
Continue.
Non, vas-y. Donc.
Les femmes, parlons-en.
Quoi, les femmes ?
Bah, les femmes, justement, Holmes. Les femmes, c'est pas terrible, hein ?
Alors.
Je parle de Holmes d'abord.
tu n'as pas le droit de parler de Holmes. Et certainement pas comme ça.
Si.
Holmes et les
Vas-y,
femmes.
Mais développe.
Holmes et les femmes. Ben oui, j'essaye.
Je t'en prie.
Il y a toute une série de théories, évidemment. On dit beaucoup qu'il est misogyne, qu'il déteste les femmes, qu'il éprouve une forte aversion pour les femmes. Il aura bien quelques paroles malheureuses au tout début des histoires, comme quoi on ne peut pas leur faire confiance, même aux meilleures d'entre elles. C'est une pensée qui va vite évoluer. Ce n'est pas un hasard. Si la première histoire courte, c'est un scandale en Bohème, il va rencontrer Irène Adler, qui va le surpasser en intelligence, qui va le battre sur son propre terrain. Et il aura pour elle un respect immense, et son image des femmes va changer du tout au tout. Mais il faut savoir que la délicatesse de Holmes traverse toute l'œuvre. Il ne supporte pas qu'on fasse du mal aux femmes, et Dieu sait si à cette époque on en faisait. On les spoliait, on les abusait, on leur confisquait leur fortune, on les empêchait de travailler, etc. Holmes va toujours défendre les femmes. Il ne supporte pas qu'on les brutalise. Il va s'attaquer aux hommes qui le font. Il y en a même un qui va essayer de cravacher avant que le type ne s'enfuit. Et puis, moi, j'aime à penser que, voilà, c'est vrai qu'il dit qu'il n'a jamais aimé, que son cerveau a toujours dominé son cœur, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Déjà, il conserve la photo d'Irène Adler dans son tiroir. Et puis, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement sensuel. C'est quelqu'un qui est violoniste, c'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus émotif que ce qu'on pense a priori quand on n'a pas lu l'œuvre. On a beaucoup rigolé avec Holmes et Watson, qui auraient peut-être une petite histoire d'homosexualité là-dessous. C'est n'importe quoi.
Pas l'hiver, lui.
C'est n'importe quoi, d'abord parce que Watson, lui, il adore les femmes et il le dit sans arrêt. « Oh, mais quelle femme remarquable! Oh, elle est à entrer, elle était magnifique !» Enfin, il n'arrête pas, c'est très drôle. Et Holmes, voilà, moi j'aime à penser que... il a sa vie secrète, après tout.
T'as eu raison, d'abord vécu ensemble, mais très vite, il est parti.
Watson,
très vite.
Parce qu'il s'est marié,
exactement.
Mais il est revenu après. Mm-hmm. Parce que sa femme est décédée. Hélas. Enfin, hélas. Pas pour tout le monde.
Et Hercule Poirot, c'est un peu... Encore un point commun. Il a un respect incroyable pour les femmes. Il met évidemment son cerveau avant le cœur. Exactement à l'image du tien. Et... pareil. Il avait... une femme, un peu comme Dante, d'ailleurs, j'avais pensé un peu à Dante avec Béatrice. Il avait une femme et il a pointé vers cette femme et il n'y avait aucune autre. Et cette femme, à un moment, il la perd, mais 25 ans plus tard. Donc pendant des années, ça a été une espèce d'amour platonique, une espèce d'amour. Une course vers l'amour, mais il savait très bien lui-même qu'il n'allait jamais l'atteindre. Et cette femme, c'était une princesse polonaise, hein, amoureux, visiblement, à cette époque-là, ils avaient la cote. Hein, on sait que Balzac était fou amoureux d'une princesse polonaise, Madame Anska. Et lui, pareil. Donc, il avait vraiment cette femme qui était comme ça, loin, un but, mais un but qu'il n'allait jamais atteindre. Et pourtant, ce but, il s'obstinait à essayer de le toucher. Et cette femme, je crois que c'est dans les années 60 qu'il la perd de vue complètement, dans un bal. Mais pareil, elle était extrêmement intelligente. Et je pense que ça aussi, il y avait peut-être un côté sapio avant que le mot ne soit, évidemment, d'usage. Il y avait ce côté-là. Et je pense qu'il était séduit par l'intelligence de cette femme. C'est ça aussi que le côté peut-être platonique a pris le dessus. Est-ce qu'il y avait un amour platonique chez...
Avec Irène Adler ? Mmh. Il y a eu des tas d'apocryphes qui ont développé leur histoire d'amour. Holmes et Irène Adler, ils auraient même eu un fils ensemble. Nero Holmes, qui est devenu après détective lui-même et qui ressemble un peu au grand frère de Holmes, Mycroft. Mais sinon, ce que je voulais dire aussi, c'est que Holmes reconnaît énormément de qualités aux femmes. Des qualités que lui ne possède pas, comme par exemple l'intuition, la fameuse intuition féminine.
Féminine, bah oui.
Holmes n'a pas d'intuition, enfin, il ne se fiera pas à ses intuitions parce que c'est un enquêteur de terrain qu'il va s'attacher aux faits, qu'il va récolter des données. Il dit qu'il ne faut jamais théoriser sur des intuitions ou des idées parce que c'est la meilleure manière de fausser son jugement.
Yes.
Par ailleurs, je voulais dire aussi que dans l'œuvre originale, ce sont les hommes qui sont méchants, qui sont lâches, qui sont veuls, qui sont pathétiques et qui s'évanouissent beaucoup aussi. Les femmes, non.
Donc ça prouve bien qu'il imitait les femmes sur un petit lestin.
Holmes, c'est hyper féministe, en fait. Ouais. C'est rarement dit dans les guides que vous voyez sur Londres ou... Mais c'est une grave erreur de jugement, ça c'est des gens qui n'ont pas lu.
Quand tu décortiques, tu le vois, qu'il aime les femmes et qu'il y a un respect extraordinaire pour les femmes.
Absolument.
Mais il faut le décortiquer. Poirot, là on va... Évidemment, le rapport n'est pas le même. Autant Holmes est un enquêteur de terrain, autant Poirot, lui, c'est quelqu'un de très orgueilleux. Hein. Très orgueilleux, il s'aime bien, il sait qu'il est intelligent, il sait... C'est depuis qu'il est parti à Londres, parce qu'en Belgique, il n'était pas comme ça. Hein. Il était humble, en fait, hein, au départ. Une blessure de guerre, hein, durant la Grande Guerre, l'oblige à partir à Londres, et il restera là-bas. Il fera des petits boulots, tout ça, il fera des petits boulots. Pour finir, il va commencer à devenir... parce qu'il est retraité avant l'heure de la police, suite à sa blessure. Et il était à Spa. Il travaillait à Spa. Donc, Agatha a quand même fait tout un personnage en quelques lignes. Hein. Elle n'a pas élaboré, elle n'a pas vraiment élaboré. Voilà, elle a quand même été le chercher en Belgique, à Spa. Il était policier à Bruxelles. Il s'est fait blesser durant la Grande Guerre. Après, il a pris sa retraite, anticipé. Et il est parti à Londres. Et là, il a fait des petits boulots. Et puis, au fur et à mesure, comme il était extrêmement intelligent et encore jeune, puisqu'il a fait une retraite anticipée, bah, il a repris le boulot. Un boulot de détective pour mettre son cerveau en action. Et là, il a pu avoir des goûts de luxe. Je ne sais pas si vous le voyez dans les épisodes, dans les livres ou dans les séries ou peu importe. Il aime bien, il vit un appartement cossu, mais encore une fois, toujours avec une très forte assurance de sa propre personne. Le truc, c'est que lui, contrairement à Holmes est un détective de terrain, lui va toujours dire à ses amis, parce que bon, il y a quand même 33 romans quand même, hein. Il y a 33 romans avec le personnage de Poirot, hein. Et 51 nouvelles. Ça fait beaucoup de Poirot, hein. Ça fait une belle salade. Hein. Et en fait, il va sans cesse dire à ses amis que lui peut résoudre une enquête dans son fauteuil, avec son petit verre, avec son petit truc, tout en réfléchissant à ce qui se passe. Ce que ne fait pas, évidemment, Holmes. Donc ça, c'est vraiment le truc qui les différencie.
J'aimerais savoir pourquoi Poirot est devenu soi-disant prétentieux en allant à Londres, mais bon, je suppose que tu as une explication.
Ça, c'est apocryphe.
Bon, évidemment, tout ce que tu as raconté par rapport à Holmes, encore une fois, ne correspond pas à la réalité. Bien sûr, Holmes est un enquêteur de terrain. Il accumule des données. Il dit ça à un moment donné à Watson, des données, des données, des données. Je ne peux pas faire de briques sans argile. Oui. C'est une de ces des répliques qu'on retient. I cannot make bricks without clay.
Bon.
Toutefois, si c'est un enquêteur de terrain, en effet, on le compare souvent à un chien limier qui court à travers les champs et les bois pour récolter des indices. Il se jette à plat ventre. Il est extrêmement athlétique, contrairement à Poirot.
Oui, c'est sûr.
Il grimpe partout, il court partout, il escalade des cheminées, il saute dans des trains, enfin...
Et Belmondo, quoi.
C'est quelqu'un aussi qui... Oui, il est plus sexy que Belmondo, quand même. C'est quelqu'un qui... Oui, bon, Belmondo est sexy, mais moins. C'est quelqu'un qui prend énormément de risques. C'est quelqu'un qui se bagarre beaucoup.
Comme
c'est
Belmondo.
C'est quelqu'un qui est souvent blessé. Mais là où tu te trompes, c'est qu'il est quand même capable de faire des déductions en restant assis. Dans L'homme à la lèvre tordue, alors qu'il a accumulé toutes les données, il va fumer toute une nuit, en empoisonnant Watson, évidemment, parce que fumer va lui permettre de concentrer toutes les données qu'il a accumulées et de trouver la solution. Mais ça, c'est pas vraiment une déduction, c'est juste un rassemblement de pensées. Mais
c'est pas ce qu'il prône. Hein. En général, il aime quand même le terrain. Il aime le terrain, quand même.
Mais par rapport à Mycroft, il se compare souvent à son frère. Son grand frère, dont il dit que...
C'est son modèle.
Il a des facultés intellectuelles encore plus énormes que les siennes. Il apprend ça un jour à Watson. Et Watson lui dit, mais quoi? D'abord, vous avez un frère? Il n'en a jamais parlé. Holmes, c'est très secret. Il dit, oui, non, j'ai un frère. Il est de 7 ans, mon aîné. Il travaille pour le gouvernement britannique. Mais comment ça se fait qu'il n'enquête pas? Eh bien, si les enquêtes consistaient à rester dans son fauteuil, il serait bien plus doué que moi. Mais seulement, non, c'est quelqu'un qui n'a pas d'ambition, Il a sa route, Whitehall, le Diogène Club et Pall Mall, là où il habite. Il n'en sort jamais. Donc voilà, Sherlock Holmes a cet avantage. Il questionne les gens, il récolte des indices, il va sur le terrain et c'est ce qu'il privilégie en effet. Mais, faut que je la retrouve, hein, parce que j'ai trop...
Le temps que tu la retrouves, je peux vite me donner le pendant de Poirot par rapport...
Je l'ai retrouvé. Non, tu veux y aller? Tu veux y aller? T'es fâché? Donc, il y a deux déductions très célèbres. Il y a la déduction du chapeau. C'est dans une histoire qui s'appelle L'escarboucle bleu, où on apporte un chapeau à Holmes. Il observe ce chapeau pendant quelques longues minutes. Et Watson lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ce chapeau? Et Holmes lui répond, voilà, propriétaire inconnu, je vous prie de bien vouloir considérer ce chapeau, non pas en tant que melon cabossé, mais comme un problème intellectuel. Il lui dit comment le chapeau est arrivé ici, et il demande à Watson de... Il dit, vous connaissez mes méthodes, observez ce chapeau, qu'est-ce que vous pouvez déduire de ce chapeau? Alors... Voilà. Mais vous vous moquez? Que pouvez-vous déduire de ce vieux chapeau cabossé? Demande Watson. Mais voici ma loupe, vous connaissez mes méthodes. Qu'êtes-vous en mesure d'apprendre vous-même, touchant la personnalité de l'homme qui a porté ce chapeau? Je pris le couvre-chef et le tournai entre mes mains, d'un air plutôt morose. C'était un melon très ordinaire, un feutre noir et dur qui devait être désagréable à porter. La coiffe de soie rouge était en grande partie décolorée et ne présentait aucune indication de chapelier. Mais comme Holmes me l'avait dit, les initiales HB étaient marquées sur le cuir. Le bord comportait deux perforations correspondant à l'élastique qui permettait de l'assujettir en cas de vent. Mais l'élastique manquait. Pour le reste, il était cabossé, très poussiéreux. Et à plusieurs endroits, il semblait qu'on eût cherché à masquer des taches en les recouvrant d'encre noire. Je n'y vois vraiment rien, dis-je en le rendant à mon ami. Mais au contraire, Watson, vous y voyez tout ce qu'il y a d'intéressant, mais vous ne savez pas raisonner à partir de ce que vous voyez. Vous êtes trop timide pour tirer des déductions. Ben alors, je vous en prie, dites-moi quelle déduction vous tirez, vous, de ce chapeau? Holmes le considéra avec cette attention soutenue qui le caractérisait. Il est peut-être moins évocateur qu'il aurait pu l'être, déclara-t-il, mais Il permet néanmoins d'inférer certaines choses de façon très nette. Et quelques autres avec seulement un fort pourcentage de probabilité. Que son propriétaire soit quelqu'un d'extrêmement cérébral, cela saute aux yeux. Et aussi qu'il a connu une assez belle aisance au cours de ces 3 dernières années, bien qu'il subisse maintenant des revers. C'est un homme prévoyant, mais moins à présent que naguère, à cause d'une certaine régression morale qui, s'ajoutant à ses revers de fortune, semble indiquer qu'il est en proie à une mauvaise influence, probablement celle de la boisson. Ceci expliquerait aussi le fait non moins évident que sa femme a cessé de l'aimer.
Mon cher Holmes.
Il a toutefois conservé un certain amour-propre, continua-t-il sans tenir compte de mon interruption. C'est un homme qui mène une vie sédentaire, sort peu et n'est plus du tout en forme. D'âge moyen, il est grisonnant, s'est fait couper les cheveux ces jours-ci et utilise un cosmétique au citron. Voilà ce que l'on peut déduire de plus évident en examinant son chapeau. Et aussi qu'il n'a probablement pas le gaz chez lui. Là, vous plaisantez, Holmes, sûrement. Mais pas le moins du monde. Est-il possible que maintenant encore, alors que je vous donne ces conclusions, vous soyez incapable de voir comment j'y suis parvenu? Bon, alors voilà. Il y a toute l'explication, hein. Si vous voulez la voir, je peux vous la lire aussi, mais il a déduit ça en observant un chapeau quelques minutes. Donc il est capable, en effet, de faire des déductions à partir d'objets qu'il...
Oui, mais il ne va pas s'en vanter auprès de ses proches. C'est pas spécialement... C'est pas... Poirot est quelqu'un qui est... très vaniteux et qui n'hésite pas à se vanter de ses capacités intellectuelles et autres de déduction. Mais non, moins, beaucoup moins. Il va le... Certes, mais c'est pas trop le personnage. Il est pas trop dans ce personnage-là. Il est pas trop dans cette mentalité-là.
Il y a aussi une déduction qui est fabuleuse, mais je vais pas vous embêter à lire des tas d'extraits. Mais...
Merci.
Tu veux les lire, peut-être?
Non.
C'est toi qui lis mieux.
Non, non, non.
Il va déduire tout le cheminement des pensées de Watson, rien qu'en observant les variations de ses mimiques, de son visage.
En parlant de Watson, justement, raconte, moi j'aime beaucoup ça, laisse-moi en placer une, s'il te plaît. J'aime beaucoup la description erronée que fait Watson au tout début de leur rencontre. J'adore ce moment-là.
Ah ok, ouais.
Non, tu peux le raconter comme ça, pas besoin de le lire quelque part.
Ben, c'est-à-dire que... Quand il rencontre Holmes, c'est au laboratoire de chimie du plus vieil hôpital de Londres, qui existe toujours, le Saint Bartholomew. Et Holmes est un type quand même très très bizarre, qui bat des cadavres pour savoir si on peut encore leur faire des bleus post-mortem. Ça pose son homme. Enfin, toi, je sais que tu fais ça tous les deuxièmes lundis du mois. Et... Il est super enthousiaste, Holmes, parce qu'il vient de trouver un produit, il vient de mettre au point un produit chimique qui réagit à l'hémoglobine. Et il dit que ça va révolutionner la criminologie, bien sûr, on pourra prouver que telle tâche, même après des heures, même après des jours, des semaines, est bien du sang. Il est super enthousiaste. Et puis, il décide d'emménager assez vite, parce que tous les deux, ils sont désargentés. Watson est un... médecin militaire qui revient d'Afghanistan. Il est oisif, il vit à Londres, mais il n'a plus un bal. Et Holmes, on ne sait pas très bien ce qu'il fait. Watson n'arrive pas à se dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce type en fait? Je ne sais pas, il l'a rencontré en train de faire ses expériences de chimie. Il sait qu'il joue bien du violon. Il observe Holmes, qui est devenu son colocataire. Et il se dit, mais bon, faisons une liste des connaissances de cet étrange type. Il est nul en astronomie, il est nul en philosophie, il est nul en littérature, il connaît pratiquement rien à la politique, mais il a une connaissance encyclopédique de tous les faits criminels du siècle dernier. Il excelle à la boxe, à l'escrime, à la canne, il connaît très bien les poisons, nul en jardinage. Qu'est-ce que c'est que cette collection de talents très bizarres? Il connaît très bien la géologie de Londres. En observant les éclaboussures sur un pantalon ou une jupe, il va savoir quelle région de Londres, quelle partie de Londres le possesseur de la jupe a traversé. Mais il n'a pas compris, Watson, à ce moment-là, dans son éclat de rire et son découragement, que toute cette collection de talents était orientée vers un seul but, qui était de déjouer et de démasquer les pires criminels de Londres. Et en fait, Holmes a inventé sa profession. Il n'y a pas de détective consultant avant lui. Pas de détective consultant à la fois amateur et professionnel. Il va en vivre, au début chichement, puis très vite, sa réputation aidant, il va très très bien en vivre. Holmes n'est pas du tout prétentieux par rapport à Poirot. Mmh. Holmes, il est conscient D'accord. de ses talents. Pour lui, ce n'est pas la peine d'être ni prétentieux ni modeste, il est attaché aux faits. Il a ses talents, il a ses facultés, il a sa méthode de déduction qu'il a érigée en science. Il est le seul. Et la plupart du temps, il n'a aucun bénéfice des affaires qu'il résout. À un moment donné, il engueule un policier qui le méprise. Ce policier, qui ne connaît pas bien Holmes, dit « Oui, je sais qui vous êtes. Hein. Vous êtes un sale type. Vous bénéficiez toujours du travail de la police et vous le prenez à votre propre crédit. » Et ça, c'est... Là, il s'échauffe un peu, Holmes, quand même, parce qu'il dit « Non. D'abord, vous allez travailler avec moi ou contre moi, mais si vous travaillez contre moi, ça va mal se passer. » Sur 53 affaires, mon nom n'a été cité dans la presse que 4 fois. Les 49 autres fois, c'est la police qui a profité de mes enquêtes, de mes déductions et de mes conclusions. Et la plupart du temps, quand il parle de lui-même, bien qu'il trouve ça un petit peu gênant quand il explique comment il a déduit, Watson dit « Bah oui, c'était simple en fait ». Et là, il dit ouais, « Bon, d'accord, je vais arrêter d'expliquer comment je fais parce que sinon tout le monde va penser que c'est hyper facile ». Mais la plupart du temps, quand il loupe le coche, quand il rate un indice, quand il rate une conclusion, il se traite de tous les noms, d'imbécile, d'âne.
C'est une forme d'intelligence, hein ?
Sans doute.
Ah oui,
je ne sais pas si Poirot fait la même chose.
Dostoïevski disait ça, d'ailleurs. Il disait que l'homme sain, l'homme intelligent, se traite 10 fois par jour d'imbécile. Imbécile, en plus, pour Dostoïevski, tu vois, c'est pas idiot. Hein. C'est pas sans rien. Hein. Alors, justement, tu disais qu'il était, secret, le Holmes, à tel point qu'il n'a même pas dit à son ami qu'il avait un frère. Poirot, lui, comme quoi, c'est complètement différent. Effectivement, il est aussi secret, mais lui, le frère, il invente. Il n'a pas de frère, il invente. Il s'appelle Achille. Et il fait croire que Achille est quelqu'un tout à fait... C'est un peu le contre-personnage, comme on dit au théâtre. C'est-à-dire que c'est complètement l'inverse de ce qu'est Poirot. Et en fait, justement, cette fois-là, pour une enquête, il va se faire passer pour Achille. Hercule. Et ça marche. Puisque les gens vont se dire « Ah ben c'est le frère de l'autre, il a l'air d'être un niais. » Et c'est comme ça qu'il va... Et c'est la seule fois, une des seules fois, où il va peut-être faire attraction à la beauté de ses moustaches. Il va les laisser un peu pendouiller, un peu, tu sais, un peu comme Sergent Garcia, là, tu vois, comme ça. Et c'est marrant de voir que chez toi, il met son grand frère en vraiment sur un piédestal. Or Poirot s'invente un pseudo frère, mais qui s'appelle Achille en plus, complètement idiot, complètement. Mais c'est encore une fois, c'est un leurre, tu vois. C'est bien pensé.
C'est marrant, donc il s'est inventé un personnage pour enquêter
oui,
à sa place.
On le voit qu'il fait que quelques apparitions. Hein. Il fait sur les plus de 80 histoires de Poirot, il y a pas. Si on le voit deux, trois fois, c'est beaucoup, hein, Achille. Ou alors il évoque. Il fait un peu jouer l'Arlésienne. Il fait un peu jouer le personnage qui. Il parle d'Achille, mais Achille, on ne le voit pas. C'est un peu l'Arlésienne, quoi.
Mais Holmes, par contre, est un maître du déguisement.
Oui, c'est vrai.
Parce que, et l'avantage d'être mince, contrairement à Poirot, là je ne fais pas du fat-shaming, mais on peut difficilement se déguiser en quelqu'un de mince quand on est...
Ça, c'est les origines belges aussi. Hein. Ah oui, il n'est pas là, Majerotte.
Étant donné, là...
Oh, Majerotte n'est pas là, dommage. J'aurais eu un exemplaire de ce qu'est un bon belge, quoi, avec un bon de panse et tout, mais il n'est pas là, Majerotte.
Mais il a aimé Bisous. La cuisine anglaise, Poirot, quand il est arrivé en Angleterre, parce qu'il n'a pas maigri.
Non, mais il faisait finir des frites. Hein.
C'est ça, par bateau.
Oui.
Donc, maître dans l'art du déguisement, il se déguise en femme, en palefrenier. Enfin, il trompe tout le monde. Même Watson ne le reconnaît pas. Même Moriarty ne le reconnaît pas. Personne ne le reconnaît. Jeremy Brett, qui était un des grands interprètes de Holmes, avait adopté, avec l'aide évidemment de maquilleurs, mais le même art et les régisseurs sur le plateau ne l'avaient pas reconnu non plus. C'est fabuleux.
Comme Patrick Sébastien alors.
Il vaut mieux que tu te taises, c'est mieux, je crois. Ça. Oui. Patrick, alors, on le reconnaît quand même, Patrick Sébastien.
On reconnaît aussi sa voix quand il imite. On reconnaît toujours le fond de sa voix, je trouve. Enfin bon, parenthèse. Bon. En dehors des canons, il y a pas mal d'histoires, je trouve, intéressantes, malgré tout, de Sherlock. Mais ça, c'est pour les lecteurs, si vous souhaitez découvrir davantage les histoires de Conan Doyle. Mais raconte un peu la frustration de Conan Doyle, raconte l'anecdote avec le fait qu'il avait reçu une forte somme d'argent pour continuer les aventures de Holmes. Or, au départ, il le tue au bout de la troisième épisode, du troisième bouquin, je crois, un truc comme ça. Enfin, il le tue assez rapidement, en tout cas. Ça, c'est très intéressant, je trouve.
Tu voudrais que je raconte ça?
Ouais. Que tu nous racontes ça, s'il te plaît, pas à moi. Moi, je connais l'histoire, mais raconte-nous ça. C'est tellement intéressant.
Je sais pas.
C'est tellement... Bon, alors, redescends, alors.
T'aimerais bien, hein?
Bon, oui, ouais, comment? Si, je le connais. Si, elle fait semblant.
Ben, en fait, Conan Doyle, il a révolutionné le genre. Il a écrit des histoires courtes, avec un intérêt cumulatif. Il a créé un personnage qui, contrairement au détective qui avait précédé Holmes, donc Holmes résout des enquêtes, il le doit à ses propres facultés, à son propre travail, à ses propres mérites, à sa science de la déduction. Les détectives avant lui, Conan Doyle les trouve très inélégants parce que c'est une question de classe qu'ils n'ont pas. Ils résolvent des enquêtes grâce à un heureux hasard, à la providence, à une coïncidence, ça ne va pas du tout. Doyle, lui, il prend le contre-pied de tout ça. Mais c'est pas ce qu'il a envie d'écrire, en fait.
Ah non, pas du tout, même.
C'est pas du tout ce qu'il a envie... Ça l'embête assez vite. Les deux premiers romans qu'il a écrits n'ont pas de succès. Mmh. Il y a ce magazine, ce nouveau journal, le Strand, qui apparaît sur le marché anglais en 1891. Et bah, il a quand même envie d'écrire des histoires policières. Il en a écrit avant. Et il invente Holmes, et quand la première histoire courte paraît, le succès par contre est immédiat. Les gens sont tout de suite accros et hyper dépendants. Et c'est vrai, si on lit ça même maintenant, enfin, c'est une religion, quoi. C'est une cam, quoi. C'est... Bon. Mais Conan Doyle, lui, il a l'impression que ça ne va pas du tout. À la sixième histoire, il a envie d'arrêter. Il a envie de se consacrer à une littérature qui, pour lui, élève un peu plus l'esprit. Il veut écrire des romans historiques,
ah ouais,
des fictions spéculatives. Il a envie de partir d'une multiplicité de points de vue. Pourquoi pas donner son avis à lui de temps en temps. Et donc, il est assez vite agacé par le succès de Sherlock Holmes. Il veut arrêter. Mais l'éditeur du Strand lui dit non. Non, Sherlock Holmes, ça fait vendre mon journal, donc vous allez continuer. Et puis, Conan Doyle, lui, il ne veut pas, il en a ras-le-bol. Et donc, il va demander une somme astronomique.
Mais vraiment un coup de poker. Hein.
Il va dire, voilà, je vais demander tellement d'argent, plus du double de ce qu'il gagnait à l'époque. Ils vont refuser et ça sera fini, je serai débarrassé de Holmes. Mais ils acceptent tout de suite. Donc, il est bien obligé de continuer. Et après, évidemment, va germer une autre idée beaucoup plus radicale. Il va tuer Sherlock Holmes. En 1893, il est en Suisse pour un cycle de conférences. Il est à Meiringen, il voit les chutes du Reichenbach qui sont un décor absolument époustouflant. Il dit ça, ce sera l'apothéose, ce sera le décor.
Le tombeau.
du duel à mort qui va opposer Sherlock Holmes à son ennemi juré, Moriarty. Et donc... lors de cette histoire qui s'appelle « Le problème final », qui est une histoire terrible, où Holmes passe son temps à fuir Moriarty, qu'il a déjà menacé à Londres, qui a déjà essayé de le tuer à maintes reprises à Londres, et bien là aura lieu donc le duel final. Les deux hommes s'empoignent, ils basculent dans les chutes. C'est fini. C'est fini, Watson est... C'est terrible. C'est vraiment, en fait, ça vous fait chialer. Enfin bon, c'est terrible parce que Watson adore cet homme. C'est son pilier, quoi. Et Holmes a eu le temps, grâce à la courtoisie de Moriarty, merci, de lui laisser un petit mot. Et Watson dit, voilà, c'est le meilleur des hommes que j'ai jamais connu. Et Holmes a disparu. Et là, ça crée un tsunami à Londres, et pas qu'à Londres. Les gens, les lecteurs du Strand deviennent carrément fous. Ils vont se désabonner du magazine en masse. Certains vont arriver dans la cité avec du crêpe enrubanné sur leur chapeau en signe de deuil. Il y a une nécrologie qui
apparaît dans le journal,
dans les journaux. Doyle reçoit, je dis toujours Watson parce qu'il y a une confusion. Hein. Les Sherlockiens pensent que en fait Watson et Doyle ne font qu'un et que Holmes a réellement existé. D'ailleurs, ils ont raison. Bref, Doyle reçoit des lettres d'insultes, des lettres de supplications. Il y a une dame qui le reconnaît en rue et qui le frappe avec son parapluie. C'est très drôle. On le traite de brute, on le traite de sale type. Mais il dit non, moi c'est terminé, moi je ne veux plus entendre de parler de ce type, il me pourrit la vie, il me distrait de mon travail de plus grande importance, c'est fini, il est mort. Et puis il va mettre quand même 10 ans à le ressusciter, 10 ans. Dans ces 10 ans, il va quand même accepter que William Gillette reprenne le rôle au théâtre, et dans ces 10 ans, il va quand même écrire Le Chien des Baskerville.
Oui.
Mais Le Chien des Baskerville, il dit... l'histoire doit être considérée comme avant, comme s'étant produite avant la mort de Holmes. Il n'a pas ressuscité. Hein. Et puis finalement, je crois qu'il va céder. Hein. On l'a à l'usure. Mm-hmm. Alors il y en a qui disent, mais ça c'est les mauvaises langues, qu'il a cédé parce qu'il avait besoin d'argent et qu'on lui a proposé un pont d'or. C'est vrai qu'on lui a proposé un pont d'or. Mais je pense qu'il a été sensible aux supplications d'un public éploré.
Ah oui, c'est ça.
Il n'était quand même pas très heureux de reprendre. Et il a continué à écrire. Il écrira encore jusqu'à la fin de sa vie, à peu près. Jusqu'en 1927, je pense. Il est mort en 30. Il écrira encore 32 histoires. Et l'annonce d'une nouvelle histoire dans Le Strand fait en sorte que Le Strand va être publié... le tirage va être augmenté à des milliers d'exemplaires. Et quand Holmes réapparaît 10 ans après dans une histoire qui s'appelle La Maison Vide, ça va s'arracher sur le pavé, les gens vont s'empoigner sur les rues. Et chaque fois qu'il y a la promesse d'une autre histoire, c'est un succès de presse.
En parlant des lieux, tu as parlé de la Suisse, est-ce que Holmes a beaucoup enquêté en dehors de Londres?
Alors, oui, en dehors de Londres, oui. Il est allé dans à peu près tous les comtés, tous les États d'Angleterre. Mmh. Et alors, il faut savoir aussi que, tu en parlais tout à l'heure, l'œuvre originale compte 4 romans et 56 nouvelles, mais il y a aussi toutes les histoires inédites, les untold stories, qui sont plus nombreuses que les histoires originales, qui sont mentionnées par Conan Doyle et par Watson. C'est les titres qui sont mentionnés. Il y a par exemple La béquille d'aluminium, l'histoire de Ricoletti et son horrible femme, l'affaire Méridou d'horrible mémoire, le rat géant de Sumatra. Bon, et toutes ces histoires sont mentionnées par Conan Doyle, mais seulement elles ne sont pas développées, elles ne sont pas racontées parce que soit il y a encore trop d'intérêts internationaux en jeu, soit le public n'est pas prêt. Moi, je suis prête personnellement, mais bon. Enfin, vous pensez bien qu'il y a plein d'auteurs contemporains ou moins contemporains qui se sont emparés de ces titres et qui ont écrit leur propre version. Mais donc, dans ces enquêtes-là, il se peut qu'il soit sorti. Je pense qu'il est allé en France pendant toute la période où il disparaît, parce que ça va prendre 10 ans à Conan Doyle de le ressusciter. Mais quand il revient, il s'est passé 3 ans. C'est ce qu'on appelle le grand hiatus. Entre sa disparition aux chutes de Reichenbach et sa réapparition à Londres, il s'est passé 3 ans. Pendant ces 3 ans, il est allé au Tibet, notamment, en Finlande, où je sais pas. C'est un grand voyageur, en fait. Hein, et il a enquêté là-bas aussi. Donc, oui, il a enquêté bien souvent en dehors de Londres.
Parce que Poirot, pas tellement, en fait. Hein, pas tellement, vous le savez, hein, il a évidemment en Égypte, avec mort sur le Nil. Pourquoi ? Parce qu'Agatha était en voyage avec son deuxième mari, qui était archéologue. Donc forcément, c'était, on le disait au tout début de la soirée, c'était pas les faits divers réels qui inspiraient Agatha, tout comme Conan Doyle, c'était les lieux. Donc, évidemment, Poirot n'apparaît pas dans cette histoire-là, mais vous connaissez tous le Diptyque Nègre. C'est pareil, c'est une île qu'elle a visitée... lors d'un de ses voyages,
Si, si, moi je continue à dire des petits nègres, j'en ai rien à faire.
C'est pas le titre original.
Si, c'est pas grave. Non, moi je rien à faire de toute cette polémique, moi j'en ai rien à secouer, quoi. Et donc, c'est en voyageant qu'elle a l'idée d'écrire cette histoire-là. Et c'est pareil, ce sont souvent ces voyages qui lui inspirent évidemment une histoire avec un retournement de situation, et je terminerai là-dessus pour mon personnage. Toi, tu continues si tu veux jusqu'à demain matin, mais moi je termine là-dessus. Ce que fait Poirot et ce que ne fait pas Conan Doyle, en tout cas ce que ne fait pas Sherlock, c'est qu'il s'amuse dans une soirée, comme ici par exemple. Imaginez maintenant ici, il y a quelqu'un qui est mort dans la cuisine d'un côté. Et c'est l'assassin est parmi nous. Ce que Poirot va faire, c'est qu'il va réunir tout le monde ici. Il va laisser sortir personne. Et il va discuter avec chacune des personnes présentes. Puis il va trouver, évidemment, on sait tous que c'est Hugo Sman qui est aussi le cuisinier. J'ai faim! Donc voilà, c'est ça que Poirot... c'est ça que Poirot s'amusait à faire. Et on retrouve cette technique dans plusieurs romans, entre autres dans l'histoire du train, l'Heure Express. Là aussi, Agatha est en voyage. Est en voyage sur le fameux train, mythique train. Et elle a eu cette idée de scénar, cette idée d'histoire. Donc voilà, ce sont ces voyages qui en fait ont inspiré Agatha pour mettre ses personnages, parce que bon, là ce soir on parle au Poirot, mais là, il y en a d'autres, il y a Miss Marple, il y a Miss Hurston, il y en a plusieurs. Hein. Voilà la machine, voilà la façon de créer, en tout cas l'imagination, l'imaginaire d'Agatha Christie, qui est comme quoi les voyages sont importants quand on est auteur.
Mais si Poirot a l'occasion de réunir, comme tu dis, tous les suspects potentiels, c'est parce que le meurtre se produit alors qu'il est là et qu'ils sont dans un espace fermé.
Mais il aurait pu très bien ne pas demander aux gens de se réunir totalement, tu vois. Il pourrait très bien les interviewer, les enquêter par là.
Il le fait. C'est qu'à la fin.
Oui, mais quand même, il y a quand même toujours cette mise en scène qui est très théâtrale, hein, de réunir les gens. On le voit souvent. Il le fait souvent, enfin, de, on va dire, or qu'on sait très bien que quelque part, c'est un peu comme Columbo, il sait qui est le méchant, quoi, on va dire.
Mais Holmes est très, très théâtral aussi. Il le dit lui-même qu'il ne peut jamais se refuser une petite touche de dramatique. Et on le voit dans plusieurs affaires, notamment le traité naval, que je ne vais pas vous raconter par le menu. Mais... Ce que je voulais dire, je pense qu'il est...
Et on va conclure.
Je voulais dire que là où Holmes est totalement supérieur à Poirot, tu peux...
Oui, c'est ce que je compte faire, tu sais.
Non, c'est que Holmes, et ça c'est un phénomène unique dans l'histoire de la littérature, il s'est incarné dans la vraie vie. Aujourd'hui, c'est le 6 janvier, c'est l'anniversaire de Sherlock Holmes. C'est quand l'anniversaire d'Hercule Poirot, dis-moi?
Le 24 mars.
Oui, pourquoi?
Voilà. Elle n'a pas besoin de se rabaisser à créer une date d'anniversaire, Agatha.
Non, mais il vient d'inventer le truc parce qu'il est pris.
Je viens de le dire. Hein.
C'est le 6 janvier, en fait, c'est les Holmésiens qui ont décrété ça, encore une fois, parce que Holmes n'est pas l'inculte que Watson croit. Il cite Shakespeare, il cite Goethe, il cite Hafiz, qui est le père de la poésie lyrique persane. Il est probablement polyglotte. Il cite deux fois une pièce de Shakespeare qui est La Nuit des Rois. La Nuit des Rois, en anglais, c'est The Twelfth Night, donc la douzième nuit après Noël. Mmh. S'il la cite deux fois, c'est peut-être qu'il a une petite accointance particulière avec le 6 janvier. Il y a aussi une autre histoire, La Vallée de la Peur, c'est un des romans, où quand l'histoire commence, Holmes a un peu la gueule de bois. Et ça commence le 7 janvier. Donc, on se dit qu'il a peut-être fêté son anniversaire.
Il a festoyé.
Il a mangé de la galette des rois, peut-être.
J'aurais envie que tu te fasses plaisir encore un petit peu.
C'est gentil.
Tant que t'es là, parce que vu que tu remonteras plus jamais sur scène.
Parce que tu as trop peur, je conçois.
Oui, comment? Je suis paniqué. Vraiment, j'ai regardé.
J'ai tout pâle.
Vraiment terrible.
J'avais pas fini.
Au Père Lachaise, il paraît qu'au Père Lachaise, il y a quelque chose à voir avec...
Oui, mais non.
Non?
Ça, c'est non. Il y a une tombe marquée SH, c'est les initiales de Sherlock Holmes, mais ça n'a rien à voir avec Holmes, vu que Déjà, pour commencer...
Il n'a jamais existé ?
Vu que, pour commencer, tais-toi. Mais ferme bien grand ta... Pour commencer, Holmes n'est pas mort, évidemment.
Bah, alors, il doit être... C'est vrai que la doyenne de l'humanité est morte hier, donc c'est lui maintenant, alors.
Pourquoi il n'est pas mort ? Il y a aussi plein de théories. Lors de son voyage au Tibet, il reçut une espèce de potion magique du Dalai Lama. Bon, ça, c'est n'importe quoi, on est bien d'accord.
Comme surtout il que ce n'était pas le Dalai Lama à l'époque.
C'était le Lama.
Oui, mais pas le Dalai Lama. Ils sont d'autres noms. Dalai Lama, c'est celui actuel.
On réglera ça sur le pavé tout à l'heure. Ouais. Il aurait aussi consommé beaucoup de gelée royale. Puisqu'il est apiculteur. Mais surtout...
Un peu d'opium aussi,
mais
non?
Mais surtout... Non, la cocaïne. Et un peu
entendu, opium.
Et un peu de morphine. Ouais, mais non. Non, il consomme pas d'opium. Il enquête dans une fumerie d'opium, il se fait passer pour un opiumane pour recueillir des indices, mais il ne consomme pas d'opium. Mais...
Allez.
Bref. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas mort? Parce que sa nécrologie n'a jamais paru dans le Times. Et ça, si c'est pas une preuve. Bref, Holmes a une adresse physique. Le 221 B Baker Street. Encore aujourd'hui, des dizaines de lettres arrivent à cette adresse. Ça a commencé du temps de Conan Doyle. On veut croire, enfin on, pas toi, mais moi, on veut croire que Holmes est un véritable personnage. Et je ne résiste pas au plaisir, si ça vous dit, de vous lire quelques lettres qui lui sont adressées. D'ailleurs, il y a eu un recueil aussi. Hein. Mais ça, ce sont des lettres récentes, parce que je suis allée en mai à Londres. Et hélas, la banque qui possédait les bâtiments avant, recevant tout le courrier adressé à Holmes, avait engagé quelqu'un à temps plein pour y répondre. Ce n'est plus le cas. Ils ne répondent plus au courrier de Holmes. Je suis bien placée pour le savoir. Il doit être sur une enquête. Mais bref, les gens continuent à lui écrire. Il y avait un classeur de lettres adressé à Holmes encore en mai. Il n'est plus là. Parce que je suis retournée en décembre, il n'est plus là. Je vous lis quelques lettres, ça vous dit ? Le 23 mars 2016. Cher monsieur Holmes, il nous est arrivé un mystère que nous ne savons pas comment résoudre. Peut-être pourrez-vous nous aider. Le mystère est le suivant. Un jour, nous avons trouvé un billet de 5 livres et nous l'avons ramassé. La semaine suivante, nous avons reçu une lettre qui disait « Je viens vous trouver, rendez-moi mes 5 livres !» La lettre venait d'Afrique du Sud. Nous serions heureux que vous nous aidiez. Sincèrement vôtre, Yuli et Itamar Evenken. Donc la lettre vient d'Israël. Décembre 21. Cher monsieur Holmes, je vous souhaite un Noël paisible et joyeux. J'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé et que les criminels londoniens ne sont pas trop sans intérêt en cette période de fête. Il n'y a rien de pire, en effet, que de s'ennuyer à Noël. Transmettez, s'il vous plaît, mes meilleurs vœux pour 2022 à votre frère Mycroft, au docteur Watson, madame Hudson, inspecteur Lestrade et les irréguliers de Baker Street, sincèrement vôtre, en cas. Cher monsieur Holmes, mon nom est Hayato, je suis étudiant dans le secondaire inférieur. J'ai lu les livres relatant vos enquêtes, ça m'a beaucoup intéressé. Vos déductions, connaissances et observations sont très merveilleuses. Vous nous dites que le cerveau ressemble à un grenier. Donc j'ai une question. Qu'est-ce que je dois faire pour mettre de l'ordre dans mon cerveau? S'il vous plaît, répondez-moi si vous avez le temps. Ça me rendrait super heureux. Tout le meilleur, Hayato. Vous en voulez encore une ou deux ou...
Oui.
Sérieux? Bon. Ça va? Tu t'ennuies pas?
Continue.
Le 13 mars 2022. Cher monsieur Holmes, un ami m'a informé que vous étiez détective professionnel. J'ai vécu récemment une série d'événements qui m'ont plongé dans la confusion. J'ai besoin de quelqu'un qui donne du sens à ce qui m'est arrivé. J'ai pensé que vous étiez la personne la plus apte à y voir clair. Voici mon histoire. Il y a quelques nuits de cela, j'ai trouvé ma porte d'entrée grande ouverte. La nuit suivante, je suis à nouveau descendue aux alentours de 2h du matin et je suis tombée sur un inconnu étendu sur le sol, inconscient. Ma femme de ménage était dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Elle avait des cuillères, des fourchettes et des couteaux. J'ai aucune idée de ce que je dois faire avec ça. L'affaire est urgente, j'ai donc décidé de vous contacter. Avant que la situation empire, je serai chez vous cet après-midi à 14h. S'il vous plaît, soyez disponible car vous êtes mon seul espoir. Sincèrement, Joseph Kohanov. Cher monsieur Sherlock Holmes, allez, j'en ai encore une ou deux. Je crois que vous accepterez l'assurance de mon respect et de mon amour et que vous m'excuserez pour ce courrier. Je sais que vous êtes le meilleur détective au monde. J'en ai entendu parler et j'ai lu beaucoup d'histoires du docteur Watson à ce sujet. Je suis très reconnaissant d'avoir l'opportunité de vous écrire en Angleterre car j'ai besoin d'aide. Peut-être pourrez-vous me dire ce que je dois faire. J'ai perdu mon inspiration. Ça peut paraître frivole. Peut-être penserez-vous qu'il s'agit d'une plaisanterie, mais c'est pour moi une chose très importante et de valeur, car je suis une personne créative. Tout dans ma vie est lié à l'inspiration, que ce soit cuisiner le dîner pour ma famille, prendre des photos de Moscou, choisir des vêtements, dessiner dans mes carnets ou écrire. Ça m'est déjà arrivé auparavant. Mon inspiration disparaissait pour un temps, mais en écoutant de la musique ou le bruit de la pluie, avec les souvenirs, elle revenait toujours. Quand je n'ai pas d'inspiration, je me sens vide, agité, parfois d'humeur dépressive, et ça me gâche l'existence. C'est horrible d'être dans cet état. Comment puis-je retrouver mon inspiration ? Comment ne plus la perdre à nouveau ? Comment ne plus avoir peur qu'elle disparaisse ? S'il vous plaît, conseillez-moi, Monsieur Holmes. Je vous implore. S'il vous plaît, répondez-moi de toute façon. Merci d'avance. Cette lettre-là donc, a été envoyée de Russie le 5 mai 2023. Toronto, Canada. Cher Monsieur Holmes, désolé que votre reine soit morte. Vous a-t-elle légué quelques chiens royaux ? Votre Basset Hound est-il un meilleur limier que les corgis ? Comment va le docteur Watson ? Élémentaire ? En tout cas, merci pour votre dur labeur. Et c'est signé Ellie Newman. Bon, allez, une dernière. Hello, monsieur Sherlock Holmes. Je suis Mandy, de Taïwan. C'est une petite île près de la Chine. Depuis 2017, j'échange des cartes postales avec le monde entier. Et maintenant, je vous écris en vrai. Je serais tellement heureuse de vous rendre visite. Et puis, j'ai fait cette carte avec ma sœur. J'espère que vous l'aimerez. La signification du chat que j'ai dessiné est l'indépendance financière. Mais je pense que vous êtes tranquille de ce côté-là. Lol. Vous avez tout au monde, l'amitié et le cœur de la majorité des enfants, dont le mien. Je vous souhaite le meilleur et j'attends votre réponse. PS, il fait 25 degrés ici et il pleut. Il reçoit des dessins d'enfants aussi. Toi qui aimes bien les enfants. J'ai encore une toute petite chose à dire. Je peux ?
Oui.
C'est que Holmes est... fait partie de la pop culture. On retrouve Holmes dans des épisodes de Scooby-Doo, dans des jeux de cartes, dans des épisodes de Batman.
Vidéo.
Il y a une effigie. Il y a même Schultz a dessiné Snoopy en Sherlock Holmes. Il est sur des jeux de cartes, il est sur des cuillères, il est sur des théières. Il est même sur un préservatif. Blow my pipe. Tiens, c'est cadeau. C'est un bon usage.
C'est... Oh, et comment ? on peut peut-être faire passer le micro ? S'il vous plaît.
Voilà. Alors, moi, j'ai une question, Isabelle. Finalement, Conan Doyle, est-ce qu'il a écrit ses autres livres ou pas ?
Quels autres livres ?
Qu'il voulait écrire.
Ah, oui. Conan Doyle, il a une œuvre considérable. J'ai pas lu grand-chose à part Sherlock Holmes, personnellement, mais il a écrit donc des histoires criminelles. Des contes, des histoires de marine, des histoires de pirates, des histoires de médecine. Il a écrit des romans historiques, La Compagnie Blanche, qui se passe pendant la guerre de Cent Ans, Les aventures du brigadier Gérard, qui est plutôt un héros à la période napoléonienne. Il a écrit Les aventures du professeur Challenger, et ça, c'est fictions spéculatives. Il y a Le Monde perdu, et on considère que sans son apport à la science-fiction, au fantastique, sans Le Chien de Baskerville, il n'y aurait pas Le Chien jaune de Simenon, il n'y aurait pas Le Cujo de Stephen King. Et sans Le Monde perdu, où le professeur Challenger retrouve la trace de dinosaures encore vivants, il n'y aurait peut-être pas eu non plus Jurassic Park. Et donc il a une œuvre énorme, quoi. Il a aussi écrit des essais sur la politique de son temps, sur le spiritisme.
Parce que Conan Doyle, il était très... Ah bah oui, oh là là, oui. Même beaucoup, même.
En fait, il avait perdu un fils. Mm-hmm. Et donc, il avait besoin de croire que l'au-delà n'était pas une fiction. Mais donc, il a écrit un essai sur les faits de Cottingley. C'est une affaire très célèbre où deux cousines ont fait croire à toute l'Angleterre qu'elles avaient trouvé des faits dans leur jardin. Mm-hmm.
Et le doute plane.
Il y a un documentaire et un film. Et le doute plane, hein, parce que... Il y a une des cousines qui a plus de 80 ans a reconnu la supercherie, mais pas pour toutes les faits, pour certaines d'entre elles. Mais il a écrit aussi des essais sur la guerre des bourses, pas des bourses, donc en Afrique du Sud, parce qu'il était médecin dans l'armée britannique lors de cette guerre. Il a fort défendu cette guerre-là, contrairement aux méfaits de la colonisation belge au Congo. Bon, les Britanniques pouvaient, pas les Belges, mais bon, moi je suis d'accord, hein, il a bien fait de dénoncer les méfaits de la colonisation belge au Congo. Et il a aussi écrit, il a aussi participé à deux grands procès de son temps. Il a innocenté deux personnes injustement accusées qui étaient promises à la pendaison. Il a enquêté, comme Holmes, et il les a fait innocenter.
Quelle palette, hein.
Ouais. Alors, une autre question pour toi, Gaëtan.
J'étais là ce soir, moi.
Très peu, mais justement...
Bah, y a rien à dire sur Poirot.
Que penses-tu des films de Kenneth Branagh ?
J'ai détesté, vraiment. Vraiment. J'ai vu... il en a fait trois. J'en ai vu deux. J'ai pas voulu voir le troisième. Voilà.
La vie de Suchet est très bien.
Bah oui, mais moi je suis pas très série. Enfin, moi je connais pas les séries. Je suis pas très.
Peter Ustinov aussi.
Oui, c'est possible.
Il y a Peter Ustinov aussi.
Oui, Peter Ustinov. Oui, tout à fait. Oui, je suis d'accord. Oui, effectivement, Hugues, je reviens. Je reviens à Maubert.
Il faut qu'on parle de Kenneth Branagh.
Je reviens.
Non, mais j'ai pris le micro parce que personne ne voulait le prendre.
Allez-y.
Non. Mais je peux pas patienter. Isabelle, je suppose qu'aujourd'hui, avec la facilité pour les gens d'écrire et de diffuser leurs écrits, il y a plein d'imitations, de reprises, de gens qui réécrivent sur Sherlock. Quels sont ceux qui t'ont frappé par le fait qu'ils étaient très différents, remis dans des contextes très différents
Tu parles des apocryphes, alors?
Ouais.
Il y a vraiment à boire et à manger. Il y a vraiment des trucs absolument nuls. Où Holmes est... Holmes, on sait qu'il va faire vendre. Donc c'est le prétexte à toute une série de trucs, enfin des bouquins d'enquête mal torchés, où on a mal compris la psychologie du personnage, on le dénature complètement, ça m'énerve.
Et il y en a qui t'ont plu ?
Ben, j'en ai pas lu beaucoup parce que je trouve pas ça de manière générale très intéressant. Moi je suis trop fan de Conan Doyle, je ne retrouve jamais... Même le fils de Conan Doyle a écrit la suite des aventures avec le biographe de Conan Doyle et... Tu ne retrouves pas le même plaisir jamais. Il y a quand même Nicolas Meyer qui il a écrit Le Fantôme de l'Opéra, qui est pas mal, et deux, trois autres. Bon, mais il y a Neil Gaiman, là. Neil Gaiman, je pense qu'on peut attendre quelque chose de bien de la part de Neil Gaiman. Stephen King a écrit une nouvelle sur Sherlock Holmes. Si elle n'est pas bien, alors c'est dommage pour lui, mais je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas dire. Mais... t'as plein de gens qui ont donné leur version. T'as Miyazaki aussi qui en a fait un personnage de ses dessins animés. C'est très beau, même si c'est pour les enfants, c'est moins sanglant ou mystérieux ou inquiétant que certaines enquêtes vraies de Holmes, mais c'est pas mal foutu. Mais il y a rien qui égale Conan Doyle, rien, à mon sens. Hein.
Et pourtant, t'as pas accroché sur ses autres livres. Les autres thèmes.
Les autres thèmes.
Les autres livres que Conan Doyle a écrits.
Ah, j'ai une pile à lire qui va jusqu'au plafond. J'ai quelques livres de Conan Doyle. J'ai lu que Mon ami l'assassin, qui est pré-Holmes et qui est une histoire, qui est un recueil de nouvelles criminelles, qui est très très bien. Mais les romans historiques, je pense que c'est pas trop ma cam. C'est sans doute très bien écrit. Un jour, je vais lire le reste, hein. Mais je pense que je reviendrai toujours à mes premiers amours.
Donc la seule magie, c'est Conan Doyle plus Sherlock Holmes.
C'est pas la seule magie, mais...
Mais c'est sa cam.
Ouais. C'est ma cam. Mais c'est vrai que quand on parle des interprètes aussi, il n'y a pas photo, quoi. On voit, Benedict Cumberbatch, Johnny Lee Miller, Roger Moore, Christopher Plummer, Peter Cushing, Basil Rathbone, Jeremy Brett, rien que d'évoquer son nom, j'ai toutes mes cellules qui partent en combustion spontanée. C'est la sexitude absolue, il est juste fabuleux. Quand on voit Poirot, c'est pas le même délire.
Je suis d'accord avec toi.
C'est vrai.
Mais c'est vrai, bien sûr, complètement.
Et Branagh, bon, je sais pas qui l'a coaché, mais quand il fait quand il parle en français, il y a personne. Nulle part en Belgique, ni en Wallonie, ni en Flandre, ni à Bruxelles, ni même à Eupen, où ça invite, qui parle avec cet accent-là, hein, quand il est dans les tranchées, là. Il parle français, il est supposé être belge. Qui l'a coaché? Il y a des coachs pour les accents. Ah ben là, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, c'est...
Qui voudrait poser une question? On peut s'arrêter là? Oui. Merci en tout cas. Je voudrais qu'on applaudisse bien. Viens ici. Je voudrais qu'on applaudisse bien fort, Isabelle.
C'est Gaëtan Fosser qui animait cette nouvelle édition de Livres en scène, des rencontres littéraires mensuelles enregistrées au Petit Chapeau rond rouge à Etterbeek. Isabelle Chevalier était l'invitée de cet entretien. Retrouvez l'article d'Isabelle Chevalier sur Arthur Conan Doyle et publié par le site www.lamiroy.be, lamiroy, L-A-M-I-R-O-Y.be.